journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et à la une, des tonnes d'objets inutilisés dans nos placards. L'agence de la transition écologique dévoile ce matin des chiffres effarants sur notre surconsommation. Vous l'entendrez, en moyenne, nous avons 30% d'affaires en trop. L'équation complexe d'EDF, ses tarifs réglementés augmentent aujourd'hui, mais bien moins que les cours de l'énergie. Le groupe a pourtant besoin d'investir massivement. Dans ce journal aussi, les proches de Nordal-Lelandais à la barre au procès de l'affaire Maëlys, les inquiétudes de l'UNESCO sur l'état de conservation de Sainte-Sophie à Istanbul et le PSG méconnaissable en Coupe de France de football.
Au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, la ministre déléguée chargée de l'autonomie. J'ai nommé Brigitte Bourguignon. Des affaires inutiles ou en double, Alexis, et si on arrêtait de surconsommer?
C'est le défi lancé à 21 familles françaises par l'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique. Pendant 7 mois, ces foyers ont été aidés pour trier, désencombrer radicalement leur logement et surtout prendre conscience du gaspillage que l'on cache dans nos placards. Ce matin, c'est l'heure du bilan. Agnès Soubiran, il est effarant.
Petit test, combien pensez-vous posséder de paires de chaussures? Et maintenant, comptez-les réellement.
En moyenne, les adultes des foyers avaient deux fois plus de chaussures que ce qu'ils imaginaient avoir et trois fois plus que ce dont ils estimaient avoir besoin.
Pierre Galliot, qui a supervisé cette enquête pour l'ADEME, a fait appel à des professionnels du rangement pour aider les familles à faire le tri. Karine et Cédric habitent une maison entre Nantes et Rennes avec leurs enfants de 9, 12 et 14 ans. Première étape, les vêtements.
Je faisais été-hiver, donc je récupérais une fois tous les 6 mois les trucs, je réessayais, ça m'allait pas, je remettais en caisse, voilà. Et là, de mettre tout sur la table et d'avoir tout... sous les yeux, c'est perturbant en fait, c'est violent.
Une prise de conscience que ces produits qui dorment dans nos placards sont préjudiciables pour la planète. La famille de Karine se tourne donc plus volontiers vers la seconde main et va jusqu'à refuser certains cadeaux d'entreprise.
J'étais toute fière d'avoir refusé la gourde puisque j'en avais déjà une qui fonctionnait encore et je vais pas m'encombrer d'un autre objet si j'en ai déjà une qui a cette utilité-là, quoi.
Bilan, les familles se sont séparées d'un tiers de leurs objets et vêtements, libérant 30 à 60% de l'espace dans leurs placards. Très peu de choses jetées au final, beaucoup données, recyclées ou vendues, un gain de 300 euros en moyenne par foyer et la perspective de consommer moins, mais mieux.
Agnès Soubiran, autre chiffre éloquent dévoilé ce matin par l'ADEME, les familles accompagnées pensaient posséder en moyenne 34 appareils électriques. Eh bien, en fouillant leur placard, chaque foyer en a retrouvé réalité près d'une centaine, trois fois plus.
Donc. L'électricité, justement, Alexis, il est 7h32, un peu plus cher à partir d'aujourd'hui.
4% de plus pour les tarifs réglementés d'EDF, mais une hausse très limitée par le plafonnement imposé par le gouvernement. Si on avait suivi les cours de l'énergie, naturellement, la facture aurait en réalité augmenté de 35%. C'est donc un manque à gagner pour EDF, déjà plombé par un endettement record, et qui va devoir en plus investir massivement dans le nucléaire, notamment Fabien Cazot.
C'est une facture de plus de 50 milliards d'euros entre la conception et la construction de 6 nouveaux réacteurs qui attend EDF. Si la commande est confirmée, l'État, à la fois donneur d'ordre et actionnaire, devra mettre la main à la poche, d'autant que l'électricien est déjà lourdement endetté à hauteur d'environ 40 milliards d'euros. L'envolée actuelle du prix de l'électricité est à double tranchant, car si elle permet à EDF d'en vendre plus cher sur le marché de gros, le gouvernement l'oblige aussi à en acheter pour la revendre moins cher à ses concurrents, ce qui ne fera qu'alourdir la dette, argumente-t-on du côté de l'électricien. Un des enjeux des discussions en cours sur les nouveaux EPR, c'est donc le montage financier entre EDF et l'État, discussion d'autant plus cruciale que les investisseurs privés ne se bousculent pas pour financer les constructions de nouveaux réacteurs, tant la mise de départ est conséquente et les retours sur investissement longs à se concrétiser, sans parler d'éventuels retards, comme sur le chantier de Flamanville, qui poussent à une certaine frilosité du côté des analystes. Liste financière.
Et puis on parlait des changements du 1er février. Pour compenser très partiellement l'inflation, c'est aussi aujourd'hui que le taux de rémunération du livret A passe de 0,5 à 1%. Le chômage baisse en France, mais pas la charge de travail des agents de Pôle emploi, à en croire leur syndicat. Alors c'est assez rare. L'ensemble des syndicats du groupe public, 10 organisations, appellent à la grève aujourd'hui. Ils réclament des hausses de salaire et alertent sur la souffrance au travail. Comme promis, Christiane Taubira a compté contacté ces dernières heures ses principaux concurrents à gauche après sa victoire dimanche à la primaire populaire. Mais une nouvelle fois, tous déclinent son offre de rassemblement, notamment Jean-Luc Mélenchon. Il lui répond par un SMS cinglant « Je t'avais cru quand tu regrettais le nombre de candidatures, tu y rajoutes dorénavant la tienne ». Le candidat insoumis qui tire son épingle du jeu dans notre baromètre mensuel France Inter Visibrain sur les réseaux sociaux pendant cette campagne. En janvier, Éric Zemmour continue d'être le candidat qui fait réagir le plus les internautes. Mais Jean-Luc Mélenchon progresse donc, Noé Miller.
Meeting immersif, programme, positionnement tranché sur le pass vaccinal et la primaire populaire. En janvier, Jean-Luc Mélenchon était sur tous les fronts. Résultat, le candidat insoumis engrange de nouveaux abonnés sur Twitter, Facebook, Instagram, à 42 000 en un mois. Une dynamique d'autant plus intéressante à souligner que Jean-Luc Mélenchon dispose déjà d'une communauté très importante. Plus de 2,3 millions d'abonnés sur Twitter, par exemple. Il fait ainsi partie des candidats qui suscitent le plus de réactions des internautes au coude à coude avec Valérie Pécresse, mentionnée dans 1,5 million de posts chacun, bien loin tout de même des 4 millions de publications citant Éric Zemmour. A noter aussi la percée du candidat communiste Fabien Roussel, au cœur des débats avec ses déclarations sur la gastronomie française, le bon vin, la bonne viande, avec son programme aussi, 121 000 j'aime sur Instagram par exemple, pour sa proposition sur la gratuité du permis de conduire pour les moins de 25 ans.
Et vous retrouvez tous les détails de ce baromètre dès maintenant sur franceinter.fr. L'heure est venue de rendre des comptes pour les dirigeants d'Orpea. Ils sont convoqués ce matin par la ministre de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, qui juste avant sera donc notre invitée dans un petit quart d'heure maintenant. Maltraitance, rationnement, négligence, que répondent-ils aux accusations graves sur la gestion de leur maison de retraite ? À Grenoble, les assises de l'Isère vont tenter encore aujourd'hui de mieux cerner la personnalité de Nordal Lelandais. Au deuxième jour du procès de l'affaire Maëlys, la cour doit entendre le frère et une ex petite amie de l'accusé. Hier, c'est sa demi-sœur et sa mère qui se sont avancées à la barre, Mathilde Vinceneuf.
J'ai toujours été proche de lui, résume la demi-sœur de Lelandais, Pelocas à la barre. Alors qui est-il ? Demande la présidente. Je connais une partie de lui, mais l'autre, je l'ai découverte dans les médias. Pour les addictions à l'alcool, à la cocaïne, elle ne savait pas. Pareil pour sa mère, interrogée elle sur l'instabilité professionnelle et sentimentale de son fils. Madame, ce que l'on sait, c'est que Nordal a tué une petite fille et qu'il n'a pas le profil habituel des assises, celui d'un enfant pas aimé ou martyrisé. La cour cherche donc des explications, tente de l'aider l'avocat de la défense, maître Jakubowicz. Mais la mère est bien incapable de répondre. Elle raconte sa souffrance d'être là pour la deuxième fois au procès de son fils. « Je n'ai plus le droit de sourire », lâche-t-elle. La présidente invite alors l'accusé à réagir. Y a-t-il eu un point de bascule dans sa vie ? Lelandais revient sur cette année 2017. « J'étais comme un vagabond, je me cassais la gueule. » Il a promis de s'expliquer, mais pas maintenant.
Mathilde Vinceneux à Grenoble. Cette info pratique, si vous avez reçu une seule dose initiale de vaccin pour cause d'infection au Covid, et ensuite la dose de rappel, c'est-à-dire au total deux doses au lieu de trois, vous devez actualiser votre attestation de vaccination sur le site de l'assurance maladie pour pouvoir conserver votre passe vaccinale. Des courriels vont partir en ce sens ce matin. Ça ne concerne pas en revanche les nouveaux vaccinés à partir d'aujourd'hui. À l'étranger, dans quel état est Sainte-Sophie ? L'UNESCO attend aujourd'hui un rapport de la Turquie sur la conservation de ce symbole d'Istanbul. Ancienne église, ancien musée, redevenu mosquée en juillet 2020 sur volonté du président Erdogan. Depuis, le comité du patrimoine mondial s'inquiète de la protection du site. C'est le reportage à Istanbul d'Anand Lower.
C'est l'heure de la prière dans la grande mosquée Sainte-Sophie. Alperen, un commerçant du quartier, s'apprête à entrer comme il le fait régulièrement depuis juillet 2020. Depuis que Sainte-Sophie est redevenue mosquée.
C'est une expérience très spéciale. Tu ressens vraiment le poids de l'histoire quand tu penses que tous les sultans depuis Mehmet le Conquérant y ont prié.
Sainte-Sophie, née basilique byzantine en 537, convertie en mosquée par les Ottomans en 1453, transformée en musée en 1934 au début de la République, Sainte-Sophie donc est de nouveau mosquée depuis un an et demi. Est-elle aussi bien protégée que l'était le musée ? Pour son imam Ferru Mouchtouer, cela ne fait aucun doute.
Elle est même encore mieux protégée. Regardez le tapis de prière. terre. Il protège le sol en marbre. Je peux vous garantir que Sainte-Sophie est en parfait état et qu'elle le restera.
L'architecte Zeynep Aounbaï, membre depuis 30 ans du conseil scientifique du ministère de la Culture pour préserver le bâtiment, n'est pas rassuré pour autant.
Lors d'une visite, j'ai par exemple constaté que des câbles avaient été cloués dans la toiture en plomb. Ce genre d'erreur arrive quand des personnes priorisent la fonction de mosquée.
La Turquie s'est offusquée quand l'UNESCO lui a demandé un rapport sur l'état de conservation de Sainte-Sophie. Le pays de Recep Tayyip Erdogan a invoqué ses droits souverains, exactement comme il l'avait fait au moment de la reconversion de l'édifice en mosquée. À Anglure, Istanbul, RFI pour France Inter.
Il est 7h39 et ça a été hier une très mauvaise soirée pour le PSG.
Oui, c'est à peine croyable pour le double tenant du titre, le club de la capitale éliminé de la Coupe de France de foot dès les huitièmes de finale. Les Parisiens battus au tir au but hier soir par Nice au terme d'un match bien terne. Et depuis, Alexandre Vaux, le doute s'installe dans les rangs parisiens.
Malgré l'entrée en jeu de Kylian Mbappé, réclamée par les 5000 spectateurs du Parc des Princes, le PSG n'a pas réussi à marquer. Lionel Messi a été méconnaissable. À la fin du match, le défenseur parisien et capitaine Presnel Kimpembe avait du mal à cacher ses regrets.
Bien sûr que c'est une déception. On veut tout gagner, on veut être en course dans toutes les compétitions. Malheureusement, ce soir, voilà, on se fait éliminer au tir au but, mais on retiendra quand même le bon match ce soir.
Le PSG, une nouvelle fois sanctionné par un ancien de la maison, le jeune gardien polonais Marcin Bulka, prêté à Nice, a arrêté 2 tirs au but hier soir. La mi-saison est passée et le collectif parisien ne progresse toujours pas. De quoi sérieusement inquiéter ses supporters.
C'est la honte. Et puis ils veulent gagner la Ligue des Champions, c'est une blague.
Gagner la Ligue des Champions comme ça, ça va être compliqué. Hein. Je crois pas malheureusement. Hein. Après, il faut y croire, sinon on serait pas là.
Voilà près de 13 ans que le PSG n'avait pas été éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe de France. Pas rassurant donc à 2 semaines maintenant de recevoir le Real Madrid en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.
Alexandre Vaux, et en Coupe de France, on connaît donc l'affiche des quarts de finale. Nice recevra l'OM dans une dizaine de jours. Les autres matchs opposeront Monaco à Amiens, Nantes à Bastia et Bergerac à Versailles. Et puis en matière de biodiversité, il y a les espèces qui disparaissent, mais aussi, plus réjouissant, celles qui restent à découvrir. Plus de 9000 espèces d'arbres ne sont toujours pas connues de l'homme. Estimation ce matin de chercheurs américains dans la revue de l'Académie des sciences, soit environ 15% du total des arbres.
Merci Alexis Morel. L'édito politique à suivre.